Nous sommes donc mardi matin et c'est un vrai plaisir de vous retrouver sur Allegue FM 93.1. Voilà que je bégaye. Gilles Brézard est derrière la vitre, il ricane parce que ce n'est pas dans mes habitudes de bégayer. Et donc ce matin, j'ai le plaisir, la joie et l'honneur de recevoir Frédéric Gournay. Et c'est amusant parce que j'ai commencé cette émission en octobre 2015 et mon premier invité, c'était lui. Il était venu présenter l'un de ses romans. Et maintenant, il vient nous présenter son grand œuvre. Je ne l'ai pas vu pendant un certain nombre d'années. Il s'est isolé et il a écrit un roman de 1000 pages qui est donc inédit. Et on ne touche pas aux machines. Et donc, voilà, où est-ce que j'en étais? Il m'a coupé le retour. Et donc, Frédéric Gournay est parmi nous et il va nous lire un passage de son roman qui s'appelle « Parle loin, l'aventure est infinie ». Merci à toi, Frédéric.
Bonjour Yves, merci de me recevoir. Donc oui, je viens présenter mon roman inédit. Comme tu l'as dit, c'est un gros roman. J'espère qu'il est plus grand que gros. C'est 2 millions de signes, 300 000 mots à peu près. Donc je suis très heureux que tu m'accueilles. Effectivement, j'ai été ton premier invité et j'espère bien ne pas être le dernier. Et donc tu veux que je vais commencer par lire un passage.
Oui, vas-y, lis-moi un passage. Oui. Et puis après moi, je pourrais lire un passage aussi de ton livre. Comme ça, ouais, les gens auront une idée. D'une minime partie de son contenu.
Donc c'est un roman qui s'étale sur 20 ans d'une vie et sur une quinzaine de pays. Donc c'est à la fois un tour du monde et la révolution d'une conscience. Donc ça va en Thaïlande, ça va en Chine, ça va en Inde, en Afrique, un peu partout dans l'Europe. Et donc là, le passage que je vais lire, le personnage se retrouve en Thaïlande, quelque part entre la Thaïlande, la Birmanie et le Laos. Et voilà, il fait... Quelques rencontres et il a la chance d'expérimenter quelque chose. Ben et moi avons déjà pris de l'héroïne en France, sans toutefois avoir jamais eu l'envie de nous piquer et d'aller jusqu'au flash. Nous nous sommes contentés de la sniffer ou de la fumer au petit matin, après une nuit de fête, pour terminer en beauté. Nous avons fait ça plusieurs week-ends de suite, avec Yannick qui connaissait 10 dealers qui nous surnommaient les gamins, avant d'arrêter la consommation. Ben trouvait le délire trop malsain, pas assez festif à son goût. Yannick vomissait chaque fois. Je ne m'en reconnaissais plus, bouffi et hagard dans le miroir. L'opium, c'est autre chose. Ce n'est pas seulement l'essence même du principe actif du pavot. Ces fleurs magnifiques que Ben et moi avons entrevues entre deux plantations dans les montagnes. Plus pures et plus naturelles que la morphine de laboratoire ou que l'héroïne coupée des dealers de rue. Pour nous, l'opium, c'est un mythe. C'est une aventure. Presque une quête. Tous les mystères de l'Asie semblent contenus en lui. Pour nous, l'opium, c'est le voyage dans le voyage. Le vieux Lissou, qui ne parle pas anglais, nous fait signe de nous allonger. Il sort du sac une longue aiguille et une petite boîte d'où il extrait une pâte noire avec laquelle il confectionne une boulette. Il la pique de son aiguille et la place au-dessus de la flamme, en la faisant rouler doucement sur elle-même, jusqu'à ce qu'elle parvienne à ébullition. Il la pose, encore fumante, dans le fourneau de porcelaine de la pipe, avant de nous entendre le tuyau de bambou. Tête sur le pull roulé en oreiller, j'aspire l'opium brûlant que le vieux Lissou maintient au-dessus de la veilleuse à huile. Il procède de même avec Ben, avant de revenir à moi, pour recommencer le rituel. La chaleur de la fumée gagne doucement le corps qui se détend de plus en plus profondément à chaque exhalaison, jusqu'à atteindre une violente extase. La sensation de bien-être physique est si intense que l'on peut se mettre dans n'importe quelle position et se sentir toujours aussi bien, à part debout où la nausée guette. Physiquement, on ne ressent plus rien. On est débarrassé du corps, enfin, de ses humeurs et de ses tensions. Celui-ci reste allongé, inerte, pendant que l'esprit vif, emporté par l'imagination, s'envole. Nous comprenons tout de suite, très lucide, rien à voir avec les ivresses de l'alcool qui troublent la conscience ou du hashish qui l'annihile. Le piège de la drogue, sans s'en alarmer une seconde. Nous acceptons notre destinée avec sérénité. Nous savons que la raison, face à une telle félicité, n'aura rien à objecter. Elle abdique. Jamais, par ses propres voies, elle n'atteindra une paix comparable. L'opium, ce n'est pas, et c'est ce qu'aucun ministère de la Santé ne pourra jamais comprendre, une perception subjective et abusive d'un bien-être, aussi inouï qu'artificiel, mais la conscience claire et objective de l'ordre, de l'harmonie et de la beauté du monde. Tout est souverainement calme, ordonné et parfait. Il n'y a plus d'opposition entre soi et le monde, de contradiction entre soi et les autres. L'unité et la totalité que l'on croyait perdues à jamais sont retrouvées. Tout est divin. On est soi-même un Dieu qui participe, plein de lui-même, omnipotent, omniscient et munificent, au mystère de la création. Nous regardons autour de nous, nous sommes pris d'une bienveillance universelle. Je souris bêtement à Ben, qui en fait de même. Nous n'échangeons pas une parole. Pourquoi vouloir parler lorsque l'idéal est atteint? Le vieux Lissu continue de préparer des pipes à tour de rôle. Nous sortons les billets de nos poches sans en vérifier le montant. Il les range dans son sac sans plus les compter que nous. Plus je l'observe et plus je m'aperçois qu'il n'est pas vieux. Il est vieilli. Il rajeunit sous mon regard. Il n'a pas 40 ans. Ses traits, hideux avant l'opium, deviennent maintenant l'objet de ma compassion. Je finis par le trouver beau. Sam, nous voyant si bien ne délirant pas, se décide à essayer de son tour. Nous l'accueillons comme le meilleur des amis, comme un frère. Il ne tarde pas à nous rejoindre sur nos couches de quiétude émerveillées. Depuis combien de temps sommes-nous là à fumer? Le temps ne se distend pas, comme avec l'herbe, il s'abolit. Les minutes se transforment en éternité. À la fois vivant et mort, nous sommes par-delà la vie et la mort. Il n'y a plus de passé, ni même d'avenir, à moins que l'immensité du temps lui-même ne soit contenue tout entière dans l'instant. Nous sommes dans l'éternel présent. Nous sommes immortels. Le rêve nous surprend, les yeux ouverts. Ce sont des fantaisies et des chimères que l'on peut diriger à volonté. Après le temps, c'est l'espace maintenant qui se dilate indéfiniment. On quitte la maison de bambou, on survole la jungle, on plane. De branche en branche avec les singes, sur les ailes des oiseaux, on parcourt la forêt, sautant au-dessus des précipices, dans les pas du tigre. On a la force et la tranquillité de l'éléphant. Plus rien ne peut nous atteindre. Nous n'avons plus d'ego, plus de personnalité. Avec elle a disparu la mémoire. Nous avons recouvré l'innocence.
Merci. Et donc, dans ton roman, tu parles de beaucoup de choses, et entre autres, tu parles du rock'n'roll. Et je trouvais que ça marchait bien, ça matchait bien avec l'émission, parce que bien sûr, ici, on est dans une radio libre, et les radios libres avaient un aspect musical très prononcé dans leur histoire. Elles défendaient des types de musique qu'on n'écoutait pas ailleurs. Ça fait, c'était presque l'essentiel de leur fonction au début, en tout cas si on pense à l'Angleterre par rapport à nous. Et donc, je vais lire un petit passage de ton livre. Serait-ce une question de génération? Je n'y ai jamais cru à cette histoire de génération. Depuis l'école, je me suis senti toujours différent des personnes de mon âge. À l'écart de leur centre d'intérêt, de leur goût, de leurs opinions, de leurs pensées. Serait-ce l'époque? Maintenant qu'il n'y a plus de grande guerre, ni de révolution, d'aventure ou de découverte, ne nous restait-il que cela pour nous arracher à la banalité du quotidien et atteindre l'idéal? Qu'adorer les idoles et à prendre de la drogue? À adorer les idoles qui prennent de la drogue? À ériger des temples tombeaux ou célébrer lors de messes noires sonores la mémoire d'idoles décédées d'overdose? Faudrait-il adorer la mort? On n'a pas attendu Guy Debord pour apprendre avec la Bible que toutes les idoles sont fausses et qu'elles ne peuvent rien pour nous. Ce ne sont que des images qui, comme toute image, portent en elles le pouvoir de perdre celui qui s'y abîme. Terrible ironie de l'idolâtrie. Nous croyons vivre à travers nos idoles et ce sont elles qui vivent à nos dépens. Vampires nocturnes de nos rêves, suçant le sang vif de nos existences réelles, nous dépossédant dans l'ombre de tout ce qui fait de nous des fils de la lumière. Force, audace, courage, amour, et le plus précieux, le don de la louange. N'aurais-je vécu moi-même que de clichés? Basculant dans la pire des caricatures au moment où je croyais me libérer, échangeant une trinité contre une autre, Père, Fils et Saint-Esprit, contre sexe, drugs and rock and roll. Un dieu vivant contre des idoles mortifères, le paradis contre l'enfer, la vérité contre le mensonge. Aurais-je troqué la vie elle-même contre la mort? La rock and roll attitude? Merde. Il n'y avait rien d'autre qu'une attitude à avoir. Se défoncer, se rendre sourd. Tu parles d'une aventure. Comment les idoles auraient-elles pu rester dupes de cette comédie ? N'étaient-elles pas les mieux placées pour prendre la mesure de l'imposture ? Cette mauvaise conscience était à l'origine même de leur consommation excessive d'héroïne ? Star international ou gloire locale, musicien mainstream ou underground, légende vivante ou artiste maudit, que leur nom soit Keith Richards ou Richard L., tous finissent par réaliser qu'ils ne sont ni des dieux ni des saints, loin s'en faut, et que l'adoration dont ils font l'objet a été obtenue en signant un pacte avec le diable. Partout où le cirque rock'n'roll bat son plein, la forfaiture faustienne se révèle. Que l'on se prête au jeu d'idolâtrie et l'on perd aussitôt son âme, quel que soit le succès et la fortune rencontrée. Dans quelle mesure l'idole contemporaine que l'on nomme rockstar se fait-elle la complice de cette escroquerie ? Jusqu'où son public accepte-t-il de se laisser berner ? La grande escroquerie du rock'n'roll, les masques tombés, le vide ontologique abyssal de leur relation ne tarde pas à se dévoiler et une étrange pulsion de mort les saisit, l'un comme l'autre. La première rêvant de coma artificiel, d'overdose et de suicide. Le second, d'expiation, de sacrifice et de mise à mort. Lou Reed, très malin, aura vite compris la situation. Ils veulent me voir crever sur scène. John Lennon défendant un Mick Jagger, que journaliste et ancien fan décente. Mais qu'est-ce qu'il demande à ce type ? Qu'il se tue sur scène ? Qu'il se vante ? Et qu'est-ce qu'ils veulent que moi et Yoko, on se tue sur scène ? Qu'est-ce qui ferait plaisir à ces petites merdes ? On ne pourra pas dire que Mark Chapman, l'homme qui abattra l'ex-Beatles de 5 balles de revolver en bas de chez lui, aura donné tort à sa paranoïa clairvoyante. Parlant d'un journaliste fan comme de son futur assassin, ce type est le genre de personne qui était amoureux de toi et qui te déteste maintenant. Un amoureux est conduit. Je ne connais même pas ce trou du cul. Mais il poursuivait une illusion. Il a cessé de l'aimer et maintenant il est une autre illusion. Le petit monde du rock'n'roll ne compte plus sur scène et en coulisses ses agressions verbales et physiques, ses menaces de mort et ses tentatives de meurtre. Pourquoi en vouloir à ce point aux stars et désirer si intensément leur nuire ? On pardonne difficilement aux idoles de n'être que des idoles. Inutile de vouloir les brûler. Elles s'y emploient très bien par elles-mêmes. Certaines n'hésitent pas, par ailleurs, à mettre en scène leur autodestruction, comme un Lou Reed faisant semblant de se piquer sur scène. De quoi viennent-ils se plaindre après ? Ou comme un Kurt Cobain posant pour les photographies le canon d'un fusil sur la tête, sous la tête, doigt sur la gâchette. À propos du chanteur de Nirvana, William Burroughs, ce vieux salopard mort à 83 ans et non pas 27, comme quelques-uns de ses admirateurs, elle dit de lui après une unique rencontre. Quelque chose ne va pas avec ce garçon. Il ne fronce pas les sourcils pour la bonne raison. Que voulait-il dire par là ? L'interprète de « I hate myself and I want to die » s'était-il trompé de colère ? S'était-il mépris sur sa malédiction ? Juste avant que sa maison ne soit entièrement détruite par le feu, brûlant ses cahiers de chansons et ses démos, John Frusciante a accepté de se laisser filmer chez lui par une équipe de télévision hollandaise. Les cheveux longs et le teint cadavérique. Le visage émacié, le corps décharné, la chemise trop grande, cachant à peine les scarifications de ses avant-bras, les mains grêles et les ongles noircis de sang, fantôme de lui-même s'exprimant d'une voix d'outre-tombe sur les raisons qui l'avaient poussé à quitter les Red Hot, sur les esprits qui le hantaient quand il enregistrait avec eux, et sur son refus de devenir une rockstar, et qui, devant la sollicitude inquiète de son interlocuteur, prétendra ne jamais avoir eu peur de la mort, finissant par s'allonger sur le sol. Entre deux chansons ou deux fixes ? Gisant, comme pour mieux l'attendre devant la caméra. Il n'y a rien d'extraordinaire, hélas, à vouloir se détruire. Mais pourquoi vouloir à tout prix le montrer aux autres ? Pourquoi une rockstar éprouve-t-elle le besoin de prendre ainsi ses fans à témoin ? Si ce n'est pour leur dire « Regardez, je ne peux rien pour vous, vous ne pouvez plus rien pour moi. » Autrement dit, pour reprendre mot pour mot comme en témoigne la sourate 14 du Coran, le message de Satan en personne. Quelle est la vérité de l'héroïne ? Du malheur de ne pouvoir se sauver, de ne pouvoir sauver les autres, de la souffrance de ne pas arriver à consacrer son unique existence à ça, l'héroïne est le meilleur remède synthétique. Je ne connais aucune autre drogue aussi efficace pour supprimer tout sentiment de culpabilité, contrairement à l'alcool, au haschich ou à la cocaïne qui peuvent l'exacerber. J'ai vu beaucoup de personnes avoir le haschich parano, le vin triste ou l'alcool mauvais, la cocaïne conne. C'est même une règle en la matière. Je n'ai jamais vu de drogué avoir l'héroïne agressive ou seulement mélancolique. Quand on en prend, comme le chante Lou Reed dans l'une des chansons les plus connues du Velvet Underground, on se sent tout simplement comme le fils de Jésus. Et plus aucun démon ne peut avoir d'entreprise. Le leurre est total. Évidemment, aucune rédemption ne peut se trouver au bout de l'aiguille. Et le toxico découvre assez vite, quoique souvent trop tard, ce qu'il en coûte de prendre les vessies du porc pour les lanternes du saint, de confondre humiliation et humilité, destruction de l'âme et lutte contre l'ego, anesthésie chimique et paix de l'âme. Le petit enfer de l'égoïsme avec le paradis infini de l'amour. Parvenu aux limites physiques et morales de la dépendance, il ne reste plus au drogué, surtout s'il est artiste, qu'une ultime illusion, celle d'identifier son goût du suicide lent à un sens du sacrifice, son statut de star à un destin de martyr. « Je me tue pour vous », finit-il par se persuader. « Restez là, j'y vais à votre place. » Le plus triste est qu'il y a toujours un public pour y croire. Il est mort pour le rock. A-t-on pu entendre à l'annonce des décès de Jimi Hendrix, de Jim Morrison ou de Kurt Cobain. Sous-entendu, il est mort pour notre passion. Il est mort à cause de nous, de la bouche de ceux qui n'avaient sans doute jamais risqué un seul instant leur vie. De fait, nombreux sont les rockers accros qui se mettent à prendre des poses christiques, en chanson, en photo ou en vidéo. Même le sardonné Cobain, barbe et cheveux longs en apparat, a donné dans le registre. Comme Lennon, qui après avoir déclaré que les Beatles étaient plus connus que le Christ, a fini lui aussi barbu et chevelu, par en assumer le message, présentant qu'on le tuerait pour ça. Comme Lou Reed, qui a mis en scène le cimetière des voitures de Fernando Arrabal, et comme Alain Bachung en France, qu'il a interprété pour la télévision, pièce qui reprend ni plus ni moins dans un décor post-apocalyptique l'histoire de Jésus. Bachung, qui a adapté de la Bible le Cantique des Cantiques, en duo avec Chloé Mons. Comme Daniel Darc, tatoué de croix, qui reprend sur son dernier album le psaume 23. Comme John Frusciante, christique au possible, en live au Slane Castle, et qui a posé pour un magazine habillé en Jésus. Le bois de la guitare sur l'épaule comme on porte une croix. Le rock serait-il vraiment la musique du diable ? Personne n'est plus catholique que le diable, prétend Baudelaire. Et si c'était une ruse suprême du Saint-Esprit, Jésus-Christ superstar ? Difficile, dans le monde des idoles, d'échapper à son modèle, a fortiori de le dépasser. La beauté sauvera le monde, répètent incantatoire les critiques et les esthètes désemparés qu'il reste face à la question du mal, tronquant presque toujours la citation, oubliant systématiquement le nom de son auteur et le roman dont elle est tirée. Cela vient de l'idée de Dostoïevski, et c'est assurément de la beauté du Christ dont il s'agit. Comment s'en étonner ? Les journalistes sont la plupart du temps incultes spirituellement, et l'industrie musicale qu'ils promeuvent, presque aussi cynique et cupide que celle de l'armement, ne veut pas entendre cette industrie parler d'un dieu né pauvre et condamné à mort, prédisant un échec commercial à tout artiste qui oserait aborder un sujet aussi épineux. Johnny Cash, dans sa biographie, rappelle à quel point sa profession de foi lui avait été rapprochée en Amérique. Sa profession de foi lui avait été reprochée en Amérique. Lui qui a sorti il y a 3 ans, 1 an avant sa mort, une sublime reprise de Personal Jesus de Depeche Mode. Et en France, son plus grand fan, Daniel Darc, doit faire face aux mêmes préjugés, aux embarras et aux malentendus pour un album Crève-cœur et la chanson Je me souviens, je me rappelle, qui parle d'une croix trop lourde à porter, s'apercevant que les journalistes qu'ils rencontrent parlent beaucoup de Dieu, mais qu'il n'en reste souvent pas grand-chose dans leurs articles, étant tous athées ou agnostiques, et s'ils ne le sont pas, leur rédacteur en chef l'étant, aucun ne voulant donner l'impression de vouloir suivre une voie spirituelle autre que celle du Dalai Lama. Et si le rock était la dernière musique sacrée, quelle est la métaphysique du rock? Personne à ce jour n'a osé ou n'a pu l'écrire. Les rares penseurs qui ont tenté de le faire, philosophes à la traîne, à la panne ou universitaires laborieux, se sont mépris sur cette musique, autant que ses pires contempteurs, croyant l'élever à une dignité ontologique au moment même où il la rabaissait comme eux à son contexte, à ses supports et à ses effets. C'est que ce qu'est le rock essentiellement leur échappe toujours à ces assis qui avouent écouter du rock dans le métro, dans leur voiture ou dans leur chambre. Pour s'endormir, ont-ils connu la sueur, le sang et les larmes d'un local de répétition? Ont-ils déjà risqué leur vie sur scène? On peut tout savoir de la boxe, avoir tout lu et tout vu sur le sujet. On ne saisira jamais ce que c'est tant qu'on n'est pas monté sur un ring pour prendre des coups et en donner. Là est la vérité. Le rock, musique de l'insurrection, lié aux années 60 et à ses révoltes urbaines. Le rock est né dans les années 40, aux États-Unis. Il est issu du blues, et ce dernier n'a jamais chanté la révolution. Comme mai 68, pur événement improductif sans objet ni âge, réussissant là où l'action politique échoue nécessairement. Comme si le rock n'avait pas créé d'œuvre et qu'il fallait décidément oublier ses racines noires, communisme intégré, utopie réalisée, les rockers ont-ils un jour tourné le dos à l'économie libérale, refusant cachets, droits d'auteur, limousines, suites d'hôtel et jets privés? En 68, le rock en bourgeoisie s'est tiré en guimauve psyché. Et il a fallu attendre 10 ans pour que les punks, renonçant au passage à toute utopie politique, lui redonnent sa vigueur initiale. Humanisation de l'électricité, électrification de l'humain, jouissance du solo de guitare qui redonne à la conscience l'impression de se rendre maîtresse de l'électricité. Cette matière étrange qui, dans les conditions modernes de production, l'aliénie quotidiennement, comme si l'intervention de la guitare électrique expliquait quoi que ce soit et un son pouvait à lui seul définir le rock. Mais de quoi jouait Little Richard au fait? Et quel était l'instrument de Jerry Lee Lewis? Johnny Cash faisait du rock avec une guitare acoustique. Et Alan Vega de Suicide se passe très bien de l'électrique. Et ce sont peut-être les plus grands rockers de la Terre. Quant au solo de guitare, visiblement très apprécié de ces universitaires, probables compétiteurs attardés d'air guitare devant leur miroir, le punk et le grunge les ont toujours rejetés, et avec eux toute la merde pro-rock, comme symbole absolu du narcissisme masturbatoire. Hendrix lui-même, ne soutenait-il pas qu'il fallait pendre haut et court tout soliste qui refusait de prendre la rythmique? Keith Richards n'a jamais entamé un seul solo. Et Lou Reed, imaginant Dieu lui apparaître et lui demander ce qu'il veut être, président de la République, politicien ou avocat, de répondre simplement « guitariste rythmique ». De même que Malcolm Young est deux fois plus important qu'Angus. Sacraliser un instrument a toujours été le meilleur moyen, non pas de passer à côté d'un genre musical, mais de manquer de l'esprit de la musique en soi. Erreur impardonnable de la part des théoriciens de l'art, esthètes revendiqués du rock, qui continuent à confondre expression et performance, création et production, poésie et technique, partageant avec les groupes de hard rock et de rock progressif, qu'ils n'assument qu'à moitié, les écoutant sûrement en cachette. Un goût prononcé pour les solos de guitare aussi interminables qu'obligés, ainsi qu'un penchant encore plus inavouable pour les coupés sport et les blondes à gros seins qui généralement l'accompagnent. Mais si l'essence du rock n'est pas dans les origines sociales, dans sa matière même ou sa technique, où se situe-t-elle? Sur quelle ontologie le rock peut-il se fonder? Et si celui-ci tirait sa nature de l'enregistrement lui-même et de sa diffusion de masse? La capture de l'émotion et sa démultiplication en artefacts. Loin de disperser et d'amoindrir l'esprit de la musique qui en est à l'origine, réussirait justement à le saisir, le rendant à la fois unique et indéfiniment réitérable, en vinyle, cassette, puis en CD, fichier MP3 et autres données numériques. Cet écart temporel entre un événement passé et sa disponibilité rendue pleinement présente, autorisant une économie des émotions qu'auparavant le concert limitait à une unité de temps et de lieu, comme un cerveau s'administrant des drogues, l'amateur de musique rock pourrait alors choisir où et quand écouter ce qu'il veut, modifiant sa perception du réel, le triant, le sélectionnant, l'accélérant ou le ralentissant selon ses besoins et ses désirs. Le rock est effectivement une façon d'être, mais une des plus fondamentales qui soit, peut-être la plus authentique. au regard de laquelle toutes les autres paraissent plus ou moins fausses ou empruntées. Quelle est sa vérité? Le roc est le tremblement de l'être lui-même. Son ébranlement dans la création, qu'elle soit humaine ou inhumaine, il saisit l'homme à la manière d'une catastrophe naturelle, comme un tremblement de terre, un ouragan, un orage ou un incendie. S'il s'agit bien d'électricité, en effet, c'est celle de la foudre, des fulgurances de l'éclair qui frappent par hasard et par fatalité. Par elle, c'est comme si la nature avait jeté ses dernières forces dans un monde où l'on avait résolu de ne plus l'écouter et avait donné ses ultimes règles à l'art avant que ce dernier ne disparaisse. Le roc foudroie littéralement tous ceux qui ont été frappés par lui, insiste sur ce point. Le roc foudroie littéralement tous ceux qui ont été frappés par lui, insiste sur ce point. C'est une violente épiphanie qui prend tout entier, les jambes comme la tête. On ne le choisit pas, on ne peut décider de lui, c'est lui qui appelle. Le roc a ses élus, c'est injuste, mais c'est comme ça, à chacun sa croix. Musique d'orage et de feu, art du désordre ravissant, comme l'a prophétisé Nietzsche. Le roc vient tout remettre en cause. Les catégories de la pensée comme celles de la société, de la morale comme de la politique. C'est à la métaphysique elle-même que le roc s'attaque. L'Église et les chapelles philosophiques, désignant unanimement l'adversaire, ne s'y sont pas trompés. Ce n'est pas tant une question de guitare, d'accord ou de mélodie que de rythme. À ce titre, pourquoi ne pas glorifier la batterie? Mais qu'y a-t-il en rock de plus idiot qu'un solo de batterie? C'est le rythme qui importe et qui emporte, qui fait que tout bouge et tremble, se secoue et exulte. C'est lui qui invite à la danse, c'est lui qui mène à la transe. Les soufis le savent bien. C'est une transe en danse, pardon du jeu de mots, transe en danse. Et marque et nargue aux inconscients qui ergotent sur ce qu'ils ignorent tout à fait. Arriver à l'inconnu par un dérèglement de tous les sens, c'est effectivement de ce côté-là qu'il fallait chercher. Qu'est-ce que le rythme? C'est la règle de deux irréconciliables qu'il naît. C'est de la règle de deux irréconciliables qu'il naît. Et c'est de son abolition dans l'accélération et l'intensification que provient la jouissance, aussi bien sexuelle que musicale. La batterie est au fondement de ce jeu entreposé. La grosse caisse fait résonner le sol, les basses de la terre, tout ce qui a une masse ou qui est pesant. La caisse claire, elle, fait entendre l'éclat et la lumière, tout ce qui monte et vole droit au ciel. Le groove n'est rien d'autre que cette capacité à faire jouer les deux ensemble, sans qu'aucun ne l'emporte définitivement, afin de les renverser, les intervertir et de les fondre. Trop de grosses caisses, lourdeur réhibitoire de beaucoup, de groupes de heavy metal, qui atteint avec la double pédale de grosses caisses, cette horreur mécanique, des somnums de grossièreté et de pesanteur. Trop de caisses claires, dérives de jazz, de mécanique, de fanfare ou de cirque, frimes de tours de baguette, ivresse du timbre, complaisance du roulement que le batteur de rock ne joue presque jamais, ne sachant pas pour la plupart du temps l'exécuter correctement. Opposition du ciel et de la terre, la batterie rejoue intégralement l'antagonisme de l'esprit et du corps, entre la partie spirituelle de l'homme et sa partie désirante. Pour mieux l'abolir, la grosse caisse envoyant des coups de poing à l'estomac et la caisse claire des claques dans la tête. Même si en rock le corps demeure souvent premier, commençant la mesure et retombant sur lui-même après chaque break, que la guitare reprenne cette dualité pour la porter à son paroxysme, ajoutant de la saturation et de la distorsion pour souligner la nature duale de l'homme. Son opposition fondamentalement dissonante au monde est certes importante, mais pour l'essentiel, le rock peut être sans guitare, avec piano, acoustique ou même a cappella. Il est avant tout un beat, une pulsation originelle, ainsi de tout genre musical qui s'identifie invariablement à son rythme, aussitôt reconnaissable, et non par les accords ou les timbres qu'il aborde. Même si une batterie et une guitare électrique caractérisent dans les fêtes le rock, il n'en faut guère plus. Et on sait gré aux White Stripes et aux Black Keys de l'avoir rappelé et de se remémorer par la même occasion les origines blues indéracinables du rock. Le rock est la musique même de la tentation. Comment ne pas voir dans le rocker un mélange de saints et de prostituées, de martyrs et de putes? Comment les rockstars passent leur temps à vouloir se faire aimer en racolant? Ils se présentent en concert les bras en croix, semblant dire « me voici, je suis livré pour vous », pour finir par montrer leur cul ou leur bite, comme les Red Hot jouant avec une chaussette sur la queue ou Iggy Pop baissant son froc sur scène. Quel obscur rapport unissent les saints, les prostituées et les rockers? D'où Mick Jagger tient-il cet air entendu? C'est vrai qu'en matière de racolage, il s'y connaît, mais en démonologie. Le rock, comme la sainteté et la prostitution, a une connaissance intime du mal. Sympathy for the devil ne veut pas tout dire. Sympathie envers le diable, mais compassion pour le diable. De cumpatior en latin, que le grec rend par sympatia ou patea, je souffre avec. À l'instar du martyr et de la putain, assumant lui aussi un corps qui par l'œuvre est rendu public, le rocker possède cet étrange pouvoir de nommer le mal et de l'extirper, de le sortir de lui-même pour en délivrer les autres, de vider le mal du mal. Comme le dit Guillotin à propos de ses prostituées sacrées, le rocker, connaissant mieux que quiconque l'étreinte du beau et du mal, la tentation qui est au cœur de la musique, la terreur et la jouissance que celui-ci peut provoquer. C'est donc tout à la beauté du diable que le rocker doit se donner, et il parvient à l'incarner la plupart du temps jusqu'à l'insupportable. Le premier d'entre eux, parmi les blancs, ayant été le plus parfait, dont tous les suivants ne se sont révélés finalement que des copies plus ou moins réussies, Elvis Presley. Bien qu'un foutu d'écrire une seule chanson, demeure l'archétype et le climax indépassable de la rockstar à la beauté diabolique. Donc chaque apparition provoquait des évanouissements, des convulsions et des orgasmes, et pas seulement auprès d'un public féminin. Ce n'est pas l'un des moindres prestiges du rock que d'arriver dans un pacte faustien à rendre toute beauté menaçante et sublime. Gilles, peux-tu nous passer un morceau de musique, s'il te plaît ?
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Bon, voilà, et Dieu sait si j'adore lire en direct, je devrais faire ça plus souvent. Mais enfin, ça dépend ce que je lis. Et je sais que vous êtes tous au courant là qu'on fait donc un appel à dons, un crowdfunding, bilan participatif. Donc envoyez des sous pour que je puisse continuer à faire n'importe la wak tous les mardis matins de 9 à 10. Au micro, regardez sur le site de la radio et vous verrez que c'est très facile de donner un petit peu de sous par PayPal. À cette brave radio qui existe depuis 40 ans. Et donc, mon cher Frédéric Gournay, que dire de plus de par loin, l'aventure est infinie.
Là, tu as lu un long passage sur le rock, qui était une longue méditation, qui est revenue à l'esprit du personnage quand on était au Maroc, à Tanger, qui est une ville éminemment rock'n'roll, parce qu'il y avait les Stones qui ont été là-bas, mais aussi Patti Smith, Flea, les bassistes des Red Hot. Beaucoup de musiciens, beaucoup d'écrivains aussi, Bram Burroughs, enfin, la liste est longue, donc c'était une ville qui a été très rock. Et donc, le personnage part dans une longue méditation sur l'essence du rock'n'roll. Puisque, effectivement, comme tu l'as laissé entendre, le livre parle beaucoup de sexe, de drogue et de rock'n'roll, mais aussi de plein d'autres choses. Il a la prétention de toucher un peu à l'essence de ces phénomènes. C'est-à-dire que j'ai cherché à travers la littérature, à travers ce roman, ce qui est essentiellement le rock, indépendamment de ses incarnations temporelles et indépendamment de toutes ses interprétations, ce que c'est essentiellement la drogue, dans son ontologie même, hein, je fais un peu de la métaphysique, du sexe, de la drogue et du rock'n'roll, mais aussi du terrorisme, la pédophilie, le complotisme et l'amour, voilà. Donc c'est effectivement tout un tour du monde et qui est une quête inachevée qui porte vers quelque chose qui dépasse évidemment l'espace et qui est plus dans l'origine du temps. Donc voilà ce que je peux dire sur ce roman. Est-ce que tu veux que je te dise un dernier court passage?
Si tu veux, oui, bien sûr, tu as le temps. Oui.
Donc ça se passe en Indonésie. Le personnage se retrouve en Indonésie et dans une Indonésie, donc c'était à la fin des années 90 et le pays était en flammes. S'il y avait des incendies qui étaient comparables à ceux qu'il y a en ce moment en Australie, il y avait des tremblements de terre et il y avait aussi une crise financière catastrophique liée aux spéculations boursières qui a plongé toute l'Asie dans le chaos. Donc le personnage se retrouve en Indonésie à ce moment-là. Et donc voilà, je lis un dernier passage. J'ai été trop loin. J'ai nagé longtemps. Je n'ai pas fait attention au courant qui m'éloigne du rivage contre lequel les pêcheurs m'avaient mis en garde. et j'ai voulu aller là où il n'y avait personne. J'ai pensé me baigner nu. J'ai tellement maigri. Je flotte dans mes vêtements. Je perds mon maillot. J'ai rejoint la pointe de l'huile qui indique l'est et qui tourne le dos au reste de l'archipel. J'ai plongé et j'ai nagé sans me retourner, ne regardant que les vagues et le ciel, me laissant porter par les premières et guidé par le second. Je cherche des yeux la plage, je ne la vois plus. Je n'aperçois que la cime des arbres et les pointes rocheuses. Je commence à fatiguer, à perdre le souffle. J'avale de plus en plus d'eau. Je n'aurai jamais la force de revenir. Comment me retournoyer ? Est-ce douloureux ? Nage-t-on jusqu'à l'épuisement le plus extrême, avant d'accepter de se laisser couler, afin de souffrir le moins possible ? Les requins nombreux dans les parages me feront-ils un sort auparavant ? Je pense à Jeff Buckley, qui était heureux et qui chantait avant de plonger, tout habillé, dans le Mississippi. Pendant quelques jours, on a pensé ne jamais retrouver son corps. Certains journalistes ont même envisagé une mauvaise blague de sa part. Je m'étais dit, c'est normal qu'on ne le retrouve pas. Des voix pareilles, ça n'a pas de corps. Retrouvera-t-on le mien ? Ou finira-t-il décomposé, dévoré peu à peu par les poissons ? Je n'ai plus le courage de faire le moindre crawl, et ma brasse ne suffit pas à contrer le courant. Ben ne sera pas là cette fois-ci pour me sauver de la noyade. Je pense à Estelle. Que fait-elle en ce moment ? Pense-t-elle à moi ? J'ai une pensée aussi étrangement pour Aline. Ben et moi sommes sortis hier soir nous bourrer la gueule pour fêter mon départ. Cette baignade matinale devait être la dernière en Indonésie. Nous l'avons rencontrée avec son mec, trop content de nous confier sa copine pour aller dormir. J'ai dansé avec elle, Ben a été fair play, il a tenu ses distances. Il m'a laissé rentrer seul avec elle. Au moment de se dire au revoir, j'ai embrassé Aline à la commissure des lèvres. À la deuxième bise, c'est elle qui a posé ses lèvres à l'oreille des miennes. Ce matin, en me levant, j'ai trouvé un petit bout de papier glissé sous la porte du bungalow, me souhaita un bon retour, avec son adresse en Suisse et son numéro de téléphone. Jeff Buckley, avant de mourir, chantait du Led Zeppelin. Les musiciens n'ont pas de dernière parole, ni de dernière volonté. Ils n'ont qu'une dernière chanson. Les paroles de Rising de Yoko Ono me reviennent en tête. L'envie de les chanter me prend. Pour conjurer le sort, la musique permet-elle vraiment d'échapper à son destin ? J'arrête de nager, je me mets sur le dos, je ferme les yeux. Je me laisse bercer par la mer et le chant, la voix assourdie dans les os du crâne, par les oreilles remplies d'eau. Listen to your heart, respect your intuition, make your manifestation, there is no limitation. Have courage, have rage, we are together. Follow your heart, use your intuition, make your manifestation, there is no confusion. Have courage, have rage, we are rising. Le courant me ramènera de le côté de l'île, je retrouverai des forces le moment venu. Un pêcheur finira par m'apercevoir. Je rouvre les yeux, c'est comme si le ciel s'ouvre au-dessus de moi. Je n'ai plus peur, je sais que je vais m'en sortir.
Bon, ben voilà, merci. Et donc, oui, il y a aussi beaucoup de choses dans ton livre par rapport à... Tu fais beaucoup d'ouvertures, disons, sur la philosophie contemporaine, par exemple.
Oui.
Tu parles de... en lisant les pages sur le rock, enfin, pour préparer mon passage, il y avait Jean-Luc Nancy,
ouais,
dont j'avais dû lire il y a un livre il y a 50 ans sur
c'est lui qui...
Philippe Lacou-Labarthe,
ouais.
Jean-Luc Nancy sur Wagner, dans mon souvenir. Et puis, il y a... Tu parles de Guy Debord. Je n'ai pas lu tout le livre, j'ai juste lu certains passages, mais je pense que tu évoques de nombreuses...
Ben c'est une grande prétention. Alors c'était ambitieux comme projet, j'espère que c'était pas prétentieux, mais l'ambition c'était quand même de couvrir l'ensemble de l'histoire de l'humanité et l'histoire d'un homme, d'un individu, et à quel point ils peuvent se retrouver et se confondre, se rejoindre, y compris peut-être dans le désastre. Mais donc il y a effectivement ça va de l'homme des cavernes jusqu'au gratte-ciel qui font 1000 mètres de haut, de la grotte au gratte-ciel. Et puis ça couvre aussi un peu tous les pays, toutes les cultures, toutes les civilisations, beaucoup de religions sont invoquées, et puis évidemment la philosophie contemporaine y est présente. Alors j'espère pas de façon trop dogmatique ni conceptuelle, mais voilà, faut que ça, j'ai essayé d'inscrire ça dans la sensibilité, dans le vécu, dans l'expérience, toujours partir du corps, de ses sensations, de ses émotions, et seulement après se demander quelle idée il peut y avoir derrière, pas faire l'inverse. Donc il y avait effectivement, ça brasse beaucoup de choses. J'ai essayé de faire un roman somme, un livre total en tout cas pour moi, qui soit le plus complet possible à mes yeux et qui résume voilà, tout ce que peut-être l'histoire jusqu'à nos jours.
Ouais, c'est l'itinéraire d'un garçon de ta génération, de ses 20 et ses 50 ans.
Ouais, entre 14 et 34 ans.
C'est, voilà. Ah oui, ça finit à 34 ans.
Ouais, ça commence en Côte d'Ivoire à 14 ans. Le héros se retrouve en Côte d'Ivoire à 14 ans. Au moment où il découvre sa sexualité, il perd la foi. Il est confronté à la radicalité, pas absolue, mais donc à l'Afrique noire, dans les années 80. Et puis ça se termine en Chine, quand le personnage a 34 ans, qu'il a rencontré l'amour. Et qui décide d'avoir un enfant. Voilà.
Donc dans ces cas-là, il y a des anachronismes parce que le disque de Daniel Darc, tu avais beaucoup plus que 34 ans quand il est sorti.
Non, il est sorti en 2005.
Oui.
Il est sorti en 2005 et le récit s'arrête en Chine en 2007.
Bon, alors il n'y a pas d'anachronisme.
Non, j'ai fait un peu attention.
Et donc tu parles beaucoup de foi, je pense à ça sur le Maroc parce que moi qui suis un païen,
oui.
si j'ai un rapport à la spiritualité, c'est par rapport à la musique. Et je pense par exemple au gnawa marocain.
Ouais. Et aux soufis.
Alors les soufis, c'est autre chose. C'est donc, parce que les gnawa, c'est plus l'histoire du blues en fait. C'est la musique des noirs marocains. Alors que les soufis, c'est plutôt le Proche-Orient, c'est plutôt savant. Les soufis, c'est une...
C'est une confrérie.
C'est une confrérie musulmane et ça me fait penser à Istanbul, ça me fait le dirk. Ouais. Mais je me vois très bien à pratiquer le dirk, c'est-à-dire des gens en file qui hochent la tête et qui avancent sur deux pas. Disons que j'aime la transe, le côté chamanique et je suis un peu hystérique et donc je peux rentrer dans un minimum de spiritualité par rapport à la musique.
Mais c'est-à-dire qu'en fait le cœur nucléaire du roman c'est le rock, effectivement, mais en fait c'est plus la musique et ce que rejoint la musique. C'est-à-dire ce qui est passionnant chez les soufis et qu'on retrouve aussi chez les gnawa et que moi j'ai retrouvé dans le rock, mais pas seulement, on peut retrouver dans le jazz, dans n'importe quelle musique. C'est cette inspiration soufie qui a tendance à considérer que l'amour, la poésie et le divin c'est une seule et même chose. Et qu'on peut fusionner ça dans la musique. Et ça donne la clé du monde, la clé de la lecture du monde et de l'existence. C'est ça, moi, qui a été le cœur du roman que j'essaie de rendre, qui n'est pas évident. Surtout, il faut le faire de façon physique. Il faut partir du corps, comme le font les danseurs, comme le font les derviches tourneurs. Il faut partir de ses vertiges. Il faut partir du fait qu'on tourne sur soi incessamment, avec un doigt qui monte le sol, un autre doigt qui monte le ciel. Et c'est de cette contradiction-là qu'il faut rendre compte.
Oui, mais c'est effectivement l'éloignement du réel. Ça ne permet pas de gérer le réel. J'ai aussi vu à Taman Rasset le retour des Hadj. Et ils étaient raides défoncés. Là aussi, avec des drums, hein, donc une ligne de tambour.
Prévaut, ouais.
Et ils avançaient les uns vers les autres, que des hommes. Ouais. Et en djellaba, ils avançaient les uns vers les autres jusqu'à tomber. Donc c'était très exaltant et en même temps très pacifiant. Mais donc après, il reste la gestion du réel, il reste le trivial, il reste... Et donc, je viens d'avoir une illumination, je comprends pourquoi on se défonce quand on fait de la musique, parce que la musique est déjà une défonse.
Et c'est déjà une transcendance.
C'est déjà une transcendance.
On est déjà arraché du réel. Donc,
on peut pas... C'est très difficile de rentrer dans ce protestantisme quand on a une éducation catholique 100% comme la mienne. Mais on ne peut pas résister à Jean-Sébastien Bach. C'est-à-dire que si on fait l'effort d'écouter vraiment des choses, parce qu'il a une approche déjà très très variée, justement sur la question du rythme, par exemple, on va trouver, si on écoute les variations Goldberg,
un clavier bien tempéré.
Un clavier bien tempéré, ou les chroniques d'Anna Magdalena, les cahiers pour Anna Magdalena Bach, qui sont des choses de pédagogie. On n'est pas dans Cerny, quoi. On est déjà dans quelque chose qui inspire, qui nous élève au-dessus de nous-mêmes, simplement par l'écoute. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est ça, ma démarche. Moi, je suis parti de la musique pour rejoindre le corps. Est-ce que ce que le corps peut exprimer en deçà ou par-delà la conscience? Parce que la conscience cherche facilement sa propre ressemblance, elle cherche facilement à avoir raison avec elle-même. Et le corps et la réalité sont là sans cesse pour la faire mentir. Et donc, il faut échapper à la fois à l'opinion, à l'idéologie et aussi à la rationalité. Donc, le moyen de court-circuiter ces trois pièges, c'est de effectivement revenir à la sensation, à l'émotion, à l'en-soi de l'émotion. Donc, c'est l'art, évidemment, mais pas seulement. Donc, c'est ça qui est fondamental. Et c'est vrai qu'il y a la musique, mais il y a aussi le chant, la méditation, il peut y avoir la prière. Il peut y avoir aussi, évidemment, la lecture, la littérature, le théâtre. Il y a aussi beaucoup de... Quand on voyage un peu à l'étranger, il y a plein de formes de spectacles qui s'offrent à nous, qui sont très différents des spectacles occidentaux. Donc, il y a, par exemple, en Indonésie, il y a le théâtre balinais. Le théâtre balinais, c'est très impressionnant. Ça dure 3-4 heures. Ça peut même durer beaucoup plus. En Inde, il y a aussi des spectacles, des représentations du Mahabharata qui durent 12 heures, 24 heures. Donc là, on est très loin des normes occidentales. Et surtout, on est sur des clés rythmiques qui sont très étranges pour nous. Moi, j'étais batteur pendant 10 ans. La première fois que j'ai entendu du théâtre balinais et les musiciens, la clé rythmique, j'ai mis 2 heures à comprendre avant de savoir ce que c'était.
Ça me fait penser à Henri Michaud, qui, comme je suis belge, qui j'ai une certaine attirance et répulsion en même temps. Mais à Barbare en Asie, par exemple, justement, comme il change de registre. Mais il le met dans le théâtre, il n'est pas dans le son du tout, il est dans l'image toujours. Mais c'est un surréaliste, quoi.
Je pensais plus à Artaud, qui a écrit des pages sublimes sur le théâtre balinais, et qui l'a totalement révolutionné intérieurement. Quand il a assisté à ça, il a eu la révélation de l'essence du théâtre, qui est le théâtre de la cruauté, que moi j'ai retrouvé dans le rock. C'est-à-dire, si on lit ce qu'il dit sur le théâtre de la cruauté, on peut tout à fait l'appliquer au rock. Et au rock le plus violent, il faut savoir quand tu vas à un concert de rock, bon maintenant ça peut être du rap ou ça peut être de la techno, mais quand tu vas à un concert, tout peut se passer et il y a un mélange de fascination et de terreur. Et il y a beaucoup de violence et beaucoup de radicalité, enfin si c'est un bon concert de rock. Donc j'ai retrouvé ça aussi. Moi, ce qui m'a intéressé en cherchant l'essence du rock, c'était de retrouver l'essence de la musique.
Bon, ben voilà, c'était Frédéric Gournay qui cherche un éditeur pour ses 1000 pages de Par loin, l'aventure est infinie. Merci et nous espérons un mardi matin. Mais envoyez des sous, nom de Dieu. Envoyez.
Merci, Yves.